VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du jeudi 1er septembre 2016. Au sommaire ce soir.
Émeute meurtrière au Gabon, conséquence de la réélection contestée du président sortant Ali Bongo Ondimba. Nous retrouverons notre envoyé spécial sur place pour une page spéciale Gabon ce soir.
Tension également en RDC à quelques heures de l'ouverture du dialogue national. Des heurts ont éclaté à Kinshasa entre les policiers et des manifestants.
Destitué hier par le Sénat brésilien pour maquillage de comptes publics, la présidente Dilma Rousseff en appelle à la Cour suprême.
Ne manquez pas notre chronique quotidienne sur la présidentielle américaine.
Bien sûr, l'économie et les sports.
Juste après le journal.
Nuit de pillage et d'émeutes au Gabon, déclenchée par la réélection contestée d'Ali Bongo Ondimba. Le centre de Libreville était quadrillé aujourd'hui par les forces de l'ordre, notamment aux abords de l'Assemblée nationale, incendié hier, et du QG du principal candidat de l'opposition, Jean Ping. Le ministre gabonais de l'Intérieur, Pacom Moubele Boubeya, a fait état de 3 morts. L'opposition compte 7, des chiffres donnés à l'issue d'une allocution du président Ali Bongo Ondimba au palais présidentiel. Alors nous retrouvons sur place Idriss Fall. Idriss, vous vous êtes rendu à la conférence de presse du ministre de l'Intérieur. Qu'en est-il sorti?
En fait, c'est une conférence de presse, un point de presse d'abord du président sortant Ali Bongo, qui nous avait convoqué à 13h, heure locale, et qui est arrivé à 15h pour dire que son amour pour le Gabon tient en 2 mots, la démocratie et le progrès. Il a déclaré que la démocratie s'accorde mal avec les attitudes d'hier et ne s'accorde mal avec des succès autoproclamés et des prises d'assaut de parlement. Suivez mon regard. Les élections ont rendu un verdict selon lui. 1 800 000 Gabonais ont gagné et donc il les appelle à travailler ensemble pour œuvrer pour le progrès. Il n'a pas accepté de questions, sauf que juste après, il a dit que nous avions des questions techniques de nous adresser au ministre de l'Intérieur, Pacom Moubele Boubeya. Et Pacom Moubele Boubeya a fait un état des lieux de tout ce qui s'est passé hier à Libreville et sur l'ensemble du territoire. Les incendies d'abord de l'Assemblée, des incendies, une tentative d'incendie selon lui de la radio-télévision nationale, des incendies au siège du quotidien national L'Union. Et il a fait un bilan de 3 morts qui ne sont pas encore identifiés, mais dont les identités seront révélé dès que possible, et il a fait état concernant les interpellations de 600 à 800 interpellations à Libreville et entre 200 et 300 à l'intérieur du pays. Mmh. En gros, je crois que c'est ça qui était le point le plus important de la journée d'aujourd'hui.
Et quelle est la situation sécuritaire aujourd'hui?
Oui, elle est toujours tendue. Extrêmement tendu. Il y a quand même des quartiers où les manifestations se sont poursuivies peut-être d'une moindre envergure qu'hier. Libreville est devenue une ville déserte, vraiment déserte. Il y a des postes de contrôle de police, par exemple, pour nous rendre à la présidence. Nous avons dû passer au moins 3 ou 4 barrages policiers pour une distance qu'on fait en 5 minutes. Tous les magasins sont fermés, les stations-service sont fermées par crainte que ceux qui veulent se faire des cocktails Molotov. Les magasins sont fermés par crainte de pillage. Et pour donner un exemple, il y avait une énorme file devant la boulangerie en face de mon hôtel, simplement pour se procurer du pain. Donc Libreville, jusque-là, la ville n'a pas réellement repris. Il n'y a pas de taxi, donc la circulation est extrêmement rare sur les routes de Libreville. Mmh. Voilà. Et le ministre a quand même lancé une sorte de mise en garde en disant que pour le moment, les forces de l'ordre ne sont pas débordées du tout, mais ont reçu ordre de faire du maintien de l'ordre, mais sont capables de rétablir l'ordre. Et il a répété ça 2 fois en disant que nous avons les moyens de rétablir l'ordre. Ce qui laisse entendre que si les manifestations continuent, je crois que la répression sera un peu plus futur.
Merci Idriss Fall, notre donc envoyé spécial à Libreville.
Et nous avons aussi sur place dans la capitale gabonaise notre correspondant permanent Jean-Rovis Dabani. Salut Jean-Rovis.
Salut.
Alors, de votre point de vue, comment est la situation ?
La situation à Libreville s'est calmée un tout petit peu. Il y a des foyers, en fait, des pillages partout, un peu dans les quartiers populaires. Et il y a eu, durant toute la journée, des arrestations. J'ai eu l'occasion de parler avec le commandant-chef de la police nationale qui a confirmé des arrestations, notamment des pilleurs, comme il les désigne. Et je fais également un tour dans un hôpital quelque part, notamment au sud de Libreville, et j'ai pu constater des militaires, notamment, pas des militaires, mais excusez-moi, mais des gendarmes qui ont été touchés par des balles tirées par des manifestants. Et hier soir, juste après l'annonce des résultats de la réélection d'Ali Bongo, donc il y a eu des manifestants qui marchaient, qui ont pillé, qui ont saccagé dans la foulée. Donc deux gendarmes ont reçu des balles tirées par des manifestants, qui n'ont pas du tout riposté.
Merci Jean-Rovis Dabani, correspondant de VOA Afrique à Libreville. Merci Jean-Rovis.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Alors pour rappel, la commission électorale a annoncé mercredi la réélection du président sortant, 57 ans, pour un deuxième septennat avec 49,80% des suffrages devant Jean Ping, l'ex-président de la commission de l'Union africaine et ancien ministre sous le règne d'Omar Bongo, n'aura obtenu que 48,23%. Sa réélection, Ali Bongo, la devrait notamment à son score écrasant dans son fief familial, le Haut-Ogoué. Il y aura obtenu 95,46% pour plus de 99% de participation, des chiffres qui paraissent anormalement élevés aux yeux de l'opposition puisque le taux de participation nationale n'est que de 59,46%. Et tout comme l'opposition, l'Union européenne et les États-Unis demandent la publication des résultats de tous les bureaux de vote du Gabon, environ 2500.
Pour l'ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, Herman Cohen, les résultats de la présidentielle gabonaise manquent de crédibilité. Il a appelé à la publication les résultats bureau de vote par bureau de vote.
À l'ambassade du Gabon à Paris, ils ont annoncé les résultats pour les Gabonais qui ont voté en France. Et M. Ping a gagné par une grande marge. Deuxième, M. Ping avait des observateurs dans chaque station de vote. Et il a ramassé les résultats dans chaque station et dit que lui a gagné. Le gouvernement de France a demandé que les résultats de chaque station de vote soient publiés. Le gouvernement refuse. Donc, j'ai peur que peut-être les résultats ne sont pas crédibles.
L'ambassade américaine à Libreville a également demandé la publication des résultats par bureau de vote. Comment voyez-vous la position des États-Unis dans cette affaire ?
C'est très légitime parce que je suis sûr que le président Bongo veut être un président légitime, il veut être un président crédible, honnête. Je crois qu'il croit dans les résultats qui sont annoncés. Donc le seul moyen de rassurer tout le monde, c'est de publier les résultats. Et s'ils ne sont pas publiés, ça donne l'impression que d'un manque de transparence, donc un manque d'honnêteté.
Les autorités gabonaises disent que la loi gabonaise ne prévoit pas de publication de résultats par bureau de vote. Qu'en dites-vous?
La loi ne dit pas qu'il ne faut pas publier. C'est seulement que ce n'est pas dans la loi de publier, mais il faut publier. Pourquoi avoir peur de publier? C'est ridicule.
Quel risque représente cette situation pour le Gabon?
Le Gabon a beaucoup de problèmes maintenant parce que le prix du pétrole, la plus grande source de revenus, est assez bas. Donc les services pour la population ne sont pas financés. Et il y a d'autres problèmes. L'éducation est en mauvais état, la santé, etc. Donc ce sera très mauvais d'avoir une situation d'instabilité dans le pays.
Pour l'ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, Herman Cohen, c'est une situation qui manque de crédibilité. En parlant de la publication des résultats au Gabon, il répondait aux questions de Timothée Donangmaï.
Ailleurs en Afrique, début du dialogue national en RDC, sous tension et sans les ténors de l'opposition. Une partie de la capitale congolaise a été paralysée en début de matinée après des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Eddie Isongo.
Les premiers discours ont été prononcés dans la grande tente de la Cité de l'Union africaine où a démarré les dialogues nationaux sous haute sécurité. Des heurts ont été enregistrés dans la matinée entre des forces de l'ordre et un groupe d'opposants au dialogue. La police a tiré en l'air et usé des gaz lacrymogènes pour disperser de jeunes qui avaient érigé des barricades entre les communes de Lemba et Limété, mais aussi au rond-point Gaba, à Matete et sur l'avenue de l'enseignement, le long de laquelle se retrouvent les sièges de plusieurs partis d'opposition. Des cas d'arrestation sont signalés. Franck Diongo, de la plateforme Alternance de la République, indique que les coordonnateurs de son groupe, Oscar Rachidi, a été emmené. Selon M. Diongo, l'opposition regroupée sous la coupe de Etienne Tshisekedi avait prévu de remettre aujourd'hui un cahier des charges à l'ambassadeur de l'Union africaine à Kinshasa et non des manifestés. Les rassemblements, la dynamique et les G7, principaux groupes de l'opposition, ont recusé Edem Kodjo comme facilitateur du dialogue et exigent entre autres la libération de tous les prisonniers politiques. Une autre partie de l'opposition prend part à ces dialogues. Vital Kamerhe en est le co-modérateur, une fonction qu'il partage côté pouvoir avec Alexis Tambwe Mwamba.
La campagne américaine de bombardement contre le groupe État islamique en Libye, entamée il y a tout juste un mois et appelée à durer quelques semaines, se poursuit à un rythme régulier, c'est du moins ce que rapporte l'AFP, citant un porte-parole militaire américain.
Et près de 16 millions de Marocains sont inscrits sur les listes électorales en prévision des législatives du 7 octobre, chiffre donné par le ministère de l'Intérieur.
Dilma Rousseff veut un nouveau procès suite à sa destitution hier par le Sénat brésilien. La présidente de gauche a fait appel ce jeudi auprès de la Cour suprême. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Tout de suite, l'actualité sportive en résumé avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Est-ce que les émeutes au Gabon vont entraîner des changements pour la CAN 2017?
Il n'y a aucun changement. On suit la situation au Gabon, a expliqué à l'AFP Junior Biniam, le directeur des médias et porte-parole de la CAF. Il a été interrogé au sujet des émeutes au pays hôte de la CAN 2017 qui aura lieu du 21 janvier au 12 février prochain. L'annonce de la réélection controversée du président sortant Ali Bongo Chérubin a fait mercredi en fin de journée a déclenché donc une nuit d'émeute dans ce pays.
L'attaquant vedette du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, veut jouer pour la paix dans son pays.
Oui, l'international Pierre-Emerick Aubameyang a assuré jeudi qu'il donnerait le meilleur pour la paix dans son pays en match préparatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Soudan. Vendredi, le Gabon doit accueillir la CAN, comme je l'ai dit, en janvier prochain.
La dernière journée des qualifications de la CAN 2017, de vendredi à dimanche.
Oui, elle dévoilera l'identité des 6 derniers participants à la phase finale. Avec un suspense autour de la Côte d'Ivoire, tenante du titre, outre le pays hôte, le Gabon, donc l'Algérie, le Cameroun, l'Égypte, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mali, le Maroc, le Sénégal et le Zimbabwe sont déjà assurés de disputer la compétition. Le premier de chacun des 13 groupes se qualifie en compagnie des deux meilleurs deuxièmes. Parmi les têtes d'affiche du continent, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre et leader du groupe I, n'a pas le droit à l'erreur contre la Sierra Leone, tout comme le Burkina Faso, finaliste en 2013 et en tête de la poule D face au Botswana. Ce sera donc ce week-end au stade du 4 août, alors que la Tunisie, deuxième du groupe A, est en danger avant d'accueillir le Libéria.
Merci Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Heureux d'être en votre compagnie, Morgane Guériec et Chérubin Gaby Dorsil. Place au dossier du jour. Première escale, Bamako.
Les partis de l'opposition malienne rejettent le projet de loi électoral en examen depuis mardi à l'Assemblée nationale. Le texte prévoit, par exemple, de faire passer la caution pour la présidentielle de 10 millions à 35 millions de francs CFA et le parrainage de tout candidat à la présidentielle de 5 conseillers nationaux à 15. Modibo Dembélé a recueilli la réaction de Seydou Diawara, député à l'Assemblée nationale et président du groupe parlementaire Vigilance républicaine et démocratique.
Il y a d'abord au niveau de la composition de la CENI, il y a 10 représentants pour les partis politiques et on veut indexer cette répartition sur le nombre de députés à l'Assemblée, ce qui est vraiment contraire par rapport aux positions anciennes. Un article aussi à problème, c'est par rapport aux conditions de parrainage des candidats à l'élection présidentielle. Avant, c'était 10 députés ou 5 conseillers par région. Actuellement, on propose que chaque candidature doit recueillir la signature légalisée de 15 députés et de 5 conseillers nationaux. Donc, ce qui est aussi une discussion assez contraignante quand nous connaissons aujourd'hui la configuration de la scène politique malienne. Également, il y a le précautionnement pour les parrainages pour les candidats qui est porté aussi à 35 millions. Ça ne favorise pas certaines candidatures féminine. Il y a une disposition aussi qui a trait à la convocation des collèges électoraux à différentes dates pour l'élection des conseillers de collectivité. Ce qui voudrait dire qu'on peut organiser des élections à différentes dates à travers les territoires. Dans la situation que nous faisons, l'agent estime que aussi cet article recèle en lui-même et gère quand même une partition future pays.
Selon vous, les nouvelles dispositions visent-elles à innover ou bien à empêcher la prolifération des partis politiques?
Nous percevons cela comme une volonté manifeste d'empêcher certains citoyens à être candidats. Tout au plus, si on gardait ces critères, on aura 3 ou 4 candidats en tout cas qui peuvent faire valoir candidature. Également, le cautionnement de 35 millions n'est pas aussi à la portée de tout le monde pour des problèmes réels de représentativité. D'abord, ça a été adopté par le gouvernement sans qu'il y ait une concertation large avec toutes les sensibilités politiques. C'était que le projet qui était initié, les gens ont fait des observations et au bout du compte, un projet qui est venu ne tenait pas compte de ces observations. La position a déjà écrit au gouvernement de retirer ce projet, ouvrir un cadre de concertation avec toutes les sensibilités, avoir un consensus.
Seydou Diawara, député à l'Assemblée nationale du Mali et président du groupe parlementaire Vigilance républicaine et démocratique.
Dans Washington Forum, direction le Gabon, où la Commission électorale nationale a validé la réélection du président Ali Bongo Ondimba avec 49,80% des suffrages contre 48,23% face à son rival Jean Ping. Ce jeudi, on analyse le processus électoral et les résultats de ce vote à un tour. Que pensez-vous de ce deuxième septennat pour le président sortant Ali Bongo? Quel futur pour l'opposition gabonaise? Quelles conséquences immédiates et à long terme pour le pays? On attend vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h temps universel.
Un processus de cession de 120 000 hectares de terres agricoles au Niger est en cours contre l'Arabie Saoudite, entre l'Arabie Saoudite et le conseil régional de Difa. Cependant, ce projet n'emballe pas les populations. Au début, vu les avantages, nous avions pensé que le projet était bon, mais maintenant, nous n'en sommes plus convaincus, a déclaré Bintoumi Boukar Koulouma, conseiller régional à Difa. Il a été joint au téléphone à Niamey au Niger par Nani Talani.
Nous avions pensé que c'était une bonne chose, hein, dans ce qu'ils ont cité comme avantage, et nous avons pensé que ça peut faire le développement. Mais après avoir cherché à s'informer, n'est-ce pas, nous nous sommes informés par des sources diverses, nous avons compris que c'est très dangereux de placer le projet dans cette zone. Et nous sommes d'avis avec la population. Il vient juste de démarrer. Les conseillers, c'est dans le cadre des négociations pour voir si vraiment il y a des avantages pour la région. Rien n'a été signé. Ils sont venus seulement dire leur intention. Mais malheureusement, au cours de ce processus-là, la population n'a pas été informée.
Est-ce que c'est parce que la population n'a pas été informée que la société civile se lève déjà contre cette initiative?
Non, ce n'est pas la société civile. Aujourd'hui, tous les ressortissants de cette zone sont farouchement contre ce projet. Parce que c'est un danger que de placer un projet aussi grandiose qui va polluer les eaux, s'approprier les terres riches, qui permet à la population de vivre. Si jamais ça aboutit, des villages seront amenés à se déplacer, etc. Si on veut aider les populations, on n'a qu'à les aider dans le cadre de leurs activités pour leur permettre de promouvoir les activités qu'ils font. Mais pas en tant que fils de la région d'amener d'autres des investissements déjà puissants qui vont venir se placer dans cette zone. Et vraiment, ça soulève vraiment une inquiétude très grande. Nous sommes mis sous pression, nous qui sommes là en tant que conseillers. Et surtout, la période est très mal placée. La population est déplacée. Elle est réfugiée. Elle a quitté son village. La plupart des gens sont dans la brousse ou sur la route nationale numéro 1. Ils sont dans la précarité.
Que dit le gouvernement ?
Le gouvernement ne peut jamais aller contre l'avis de la population. Le gouvernement n'a rien dit pour le moment.
Bintoumi Boukar Koulouma, conseiller régional à Difa au Niger.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Rendons-nous maintenant au Cameroun où les marchés sont inondés de marchandises de seconde main d'origine américaine ou européenne, essentiellement des appareils électroniques et des meubles très prisés par des acheteurs pour leur bonne qualité. La ruée pour cette brocante affecte le commerce des produits chinois perçus comme de qualité inférieure. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
Plus de 100 jeunes font la promotion des marchandises de seconde main au marché Mokolo à Yaoundé, l'un des plus grands marchés de brocante au Cameroun. Parmi les clients, Bimila Hans, jeune enseignant de 21 ans.
I prefer second-hand goods from Europe and America because of.
Je préfère les produits d'occasion d'Europe et d'Amérique grâce à leur qualité et leur tenue sur une longue durée. Ces produits sont certes très chers, mais quand on sait ce qu'on veut, mieux vaut dépenser de l'argent pour ce qui est bon que d'acheter ce qui ne l'est pas.
Non loin du marché, 50 tailleurs confectionnent des habits achetés au marché de seconde main. Ayompe Rosaline, étudiante à l'université de Yaoundé 2, vient d'acheter un habit chez l'un d'entre eux.
Quand j'achète les habits en friperie, je dois d'abord les laver, les repasser avant de les porter, afin que s'il y a une souillure, ça ne m'affecte pas. Parfois même, je tombe sur un vêtement qui me plaît, mais ne me suffit pas. Mais je l'achète quand même et je le donne à un tailleur pour qu'il le réduise à ma taille.
Le gouvernement camerounais annonce une augmentation de 50% des produits importés de l'Europe et de l'Amérique depuis 5 ans. Christelle Ndjok, employée à la douane camerounaise, s'exprime.
Parfois, ce sont les gars d'ici qui ont les frères en or ou les amis qui se chargent de ramasser les appareils. Comme à l'étranger, les gens n'utilisent pas beaucoup. Ils peuvent utiliser pendant même 6 mois ou 1 an, ils changent l'appareil. Donc leurs frères qui sont là-bas collectent ces appareils-là et trouvent un moyen de les envoyer ici.
Elle parle aussi des pays de provenance des marchandises les plus sollicités.
Les produits électroniques de préférence viennent de l'Allemagne. C'est solide.
Larai Bouba, enseignante de l'université, vient d'acheter un véhicule de seconde main.
On préfère les voitures d'occasion venant d'Europe parce que c'est des voitures en bon état, c'est des voitures solides, c'est des voitures bien construites, contrairement aux voitures qui viennent de Chine ou de l'Inde dont on n'est pas sûr de la qualité des pièces. Et les occasions venant d'Europe, on trouve les pièces ici.
L'achat de ces produits de seconde main met à mal les commerces de marchandises chinoises considérées comme des produits de qualité inférieure. Les hommes d'affaires camerounais déclarent que cette importation de masse de produits de seconde main fragilise l'économie locale. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Ici aux États-Unis, le candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, a prononcé hier soir à Phoenix, en Arizona, un discours très attendu sur sa politique en matière d'immigration. Il a aussi promis la tolérance zéro, avec notamment l'expulsion de 2 millions d'immigrants illégaux qui ont des antécédents criminels dès son arrivée à la Maison-Blanche. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Leonardo Villalon, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride.
Ce discours, c'est sûr, ça entre dans la ligne un peu de ce que Trump a dit depuis le début de la campagne. Ce qui est un peu bizarre hier, c'est qu'en fait, ça a suivi sa visite éclair au Mexique, où il a tenu quand même un temps, ou au moins il a semblé changer un petit peu de temps. Et donc, nous voyons en fait comme toute la campagne de Trump jusqu'à maintenant, c'est un peu bizarre. Un peu difficile d'avoir exactement, clairement, quelle est sa position. Mais hier soir, c'est assez évident qu'il voulait quand même tenir la ligne dure encore pour renforcer sa base.
Justement, en réadoptant la ligne dure, cela veut-il dire qu'il n'y aura pas de changement de cap pour ne pas aliéner certains électeurs qu'il a conquis pendant les primaires ?
En fait, je ne sais pas, c'est très difficile de lire ces avancements de guerre, mais il me semble que peut-être de retour du Mexique, où il a quand même essayé de faire un peu l'image de quelqu'un qui pourrait éventuellement être présidentiel à côté d'un président d'un pays voisin, etc., sachant très bien, je crois que ce n'est pas ça qui va renforcer sa base parmi cette petite partie de l'électorat américain qui tient coûte coûte à cette position xénophobe et anti-immigrant. Il a voulu renforcer, je crois, encore une fois, cette base et rassurer sa base qui reste, qui garde bien sa ligne dure.
Alors, pour revenir sur cette visite au Mexique, confusion après sa rencontre avec le président mexicain Enrique Peña Nieto au sujet du projet de mur à la frontière. Le Mexique affirme qu'il ne paiera pas pour ce mur. Ce genre de confusion, est-ce maintenant la normalité au niveau de la campagne présidentielle du côté républicain ?
Oui, évidemment, ça se voit. On entend, en fait, Trump semble quand même prendre des positions. Il donne très peu de précisions sur les détails et il préfère adopter un ton, si vous voulez, qui donne une certaine image au lieu de des détails. Et donc, ça, je crois que ça mène à une certaine confusion. J'ai vu que Jeb Bush, le candidat malheureux aux primaires républicaines, a dit exactement la même chose. Il a critiqué Trump en disant « je ne sais même pas critiquer ses positions parce qu'on ne sait pas quelles sont ses positions. Il semble changer régulièrement. » Donc on voit que même à l'intérieur du Parti républicain, les grands teneurs du parti sont très très inquiets par cette situation.
Mais en ce qui concerne ce fameux mur, le président mexicain lui-même l'a dit sur Twitter. Mais pensez-vous qu'il aurait pu le dire haut et fort quand Donald Trump était à ses côtés lors de leur conférence de presse conjointe? Est-ce une occasion ratée également pour Peña Nieto?
Écoutez, là, vraiment, je ne sais pas vous dire. Je suis un peu confus, comme peut-être beaucoup de monde, sur cette situation. Je ne comprends pas. C'est sans doute, comme je disais tout à l'heure, mon propre ignorance de la politique mexicaine. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé le président mexicain de vouloir donner cette plateforme à Trump, se positionner là, et puis de rester quand même assez silencieux pendant la conférence elle-même. Donc oui, ça, je crois que ça sème la confusion, c'est pas du tout clair.
Leonardo Villalon, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride, joint à Gainesville, en Floride.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Georges Léonard Sagnou a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Nachouane Kali. Présentation Morgan Guiriec et Chérubin Gabi Dorsil.
Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos fans sur Facebook, 1 700 000. Alors maintiens la conversation. N'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com.
Le monde aujourd'hui.
diffusée partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.